France Inter.fr. France Inter, il est 13h. Le journal Yves Decamp, bonjour.
Bonjour. Il n'a pas été fait un usage disproportionné de la force dans l'enquête sur la mort du militant écologiste Rémi Fraisse. Le parquet de Toulouse requiert un non-lieu. Le gendarme qui a tiré une grenade n'avait pas d'autre solution. L'avocat de la famille dénonce une raison d'État. Les suppressions de postes d'aujourd'hui font les emplois de demain. Le PDG de Michelin, Jean-Dominique Senard, explique sur France Inter les raisons et les modalités du plan social annoncé à l'usine de Clermont-Ferrand, où aucun départ ne sera contraint. Les députés marcheurs en séminaire à Paris, ils ont élu comme prévu l'ex-ministre Richard Ferrand, président du groupe. Dans ce journal également, d'autres marcheurs, également à Paris, pour la Gay Pride, la marche des fiertés de Concorde à République cet après-midi. La maire de Rome, en difficulté, un an tout juste après son élection. Le mouvement populiste 5 étoiles dont elle est issue se voit décrédibilisé. C'est le droit de suite de ce samedi 13h. Avec en conclusion le dernier Chuck Berry, un album posthume de la légende du rock, décédé en mars dernier. C'est le Conseil Culture de Mathieu Culeron.
France Inter.
On l'a appris ce matin, la journaliste Véronique Robert, blessée lundi dans l'explosion d'une mine à Mossoul en Irak, est morte des suites de ses blessures. Opérée à Bagdad, elle avait été transférée dans la nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital Percy près de Paris. Deux de ses confrères, Stéphane Villeneuve et l'Irakien Bakhtiar Haddad, avaient été tués dans l'explosion. Tous trois étaient en reportage pour l'émission Envoyé spécial sur France 2. Âgée de 54 ans, Véronique Robert, de nationalité suisse, avait déjà réalisé une série sur l'Irak pour Paris Match. Il n'y a eu ni crime, ni délit. Le parquet de Toulouse a requis un non-lieu concernant la mort du militant écologiste Rémi Fraisse. C'était à Sivens, dans le Tarn, le 26 octobre 2014, à l'occasion d'une manifestation contre un projet de barrage. Rémi Fraisse, âgé de 21 ans, avait succombé à l'explosion d'une grenade tirée par un gendarme, lequel, du point de vue du parquet, n'avait pas d'autre solution. Corinne Cutillat.
La famille de Rémi Fraisse s'en doutait. Il y a plus d'un an, son père disait craindre ce non-lieu. Pour l'avocat de la famille Fraisse, c'est l'État qui donne raison aux forces de l'ordre, une sorte de permis de tuer. Le parquet estime, lui, que le gendarme ne pouvait pas se défendre autrement. Maître Ariel Imi, l'avocat de la famille Fraisse.
Il y a un gendarme ou un fonctionnaire de police et en face, quelqu'un de la société civile. Il y a systématiquement l'institution qui se protège. Il ne faut pas oublier que le procureur de la République, c'est celui qui supervise les gendarmes. Donc comment voulez-vous qu'un procureur de la République aille à l'encontre de fonctionnaires de la gendarmerie qui sont sous ses ordres? À mon sens, il y a un vrai problème structurel. C'est également le cas dans le dossier de Rémi Fraisse.
Faux, répond l'avocat du gendarme, maître Jean Talamé. Techniquement, explique-t-il, cette réquisition est logique car personne n'a été mis en examen dans cet épais dossier. Le gendarme a été entendu comme simple témoin.
Ça n'est absolument pas la raison d'État qui a été exprimée par le procureur. Non, c'est juste un dramatique accident épouvantable. Tout le monde regrette la mort épouvantable de ce jeune homme. Mais maintenant, ça ne suppose pas de venir de nouveau sous-entendre qu'il y a une raison d'État qui fait qu'on aurait camouflé un crime ou un délit là où il n'y en a tout simplement pas.
Les juges d'instruction vont devoir maintenant clôturer le dossier, très certainement par cette ordonnance de non-lieu. Toulouse, Corinne Cutillat, France Inter.
Aucun départ contraint, aucune souffrance sociale. Le PDG de Michelin, Jean-Dominique Senard, s'est expliqué sur France Inter ce matin sur la suppression annoncée de 1200 emplois en France d'ici 3 ans. Départ en retraite qui ne seront pas remplacés dans la plupart des cas, mais aussi départ volontaire en pré-retraite. Pour Jean-Dominique Senard, Michelin, comme toute entreprise, doit s'adapter au monde qui vient. Les suppressions de postes d'aujourd'hui seront suivies de recrutements sur des activités nouvelles.
Dans quelques années, dans 1, 2 ans, 3 ans, un certain nombre de postes ne seront plus remplis dans la mesure où ils seront vides de leur sens. Lorsque vous lancez des grands programmes de transformation, ce qui a été le cas de Michelin il y a 2, 3, 4 ans, on embauche des gens pour faire cela. Et je vous parle de transformation informatique mondiale, on embauche des gens. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, dans le cas particulier de Michelin, c'est d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ces emplois-là vont disparaître de fait puisque les programmes seront faits. Donc il faut pouvoir anticiper pour que les gens qu'on a embauchés à ce moment-là gardent leur emploi dans l'entreprise, soient formés à autre chose et puissent intervenir dans un autre domaine. Quand je parle de mutation des emplois en France, c'est vraiment un sujet d'actualité. Lorsqu'un certain nombre d'emplois qui sont à plus faible valeur ajoutée disparaissent ou parce que les missions sont terminées, il ne faut pas en faire un drame si on peut les remplacer par des emplois à haute valeur ajoutée. Je suis personnellement persuadé qu'en France, une grande partie de la mutation des emplois, notamment dans l'industrie, va se faire comme ça.
Le PDG de Michelin ce matin dans On n'arrête pas l'écho avec Alexandra Ben Saïd. En politique, les députés marcheurs en séminaire de cohésion toute la journée à Paris. Les 308 élus, dont seulement 10% sont des députés sortants, sont réunis à huis clos à la salle des fêtes de l'hôtel de Lasselle, la résidence privée du président de l'Assemblée nationale, pour apprendre le métier, mettre au point le fonctionnement du groupe majoritaire et se connaître. Camille Labrousse.
Les 308 députés de La République En Marche vont devoir travailler main dans la main pour les 5 prochaines années. Un objectif donc aujourd'hui, estime Hugues Ranson, député de Paris, apprendre à se connaître.
On est un groupe important avec des profils différents, des profils professionnels différents, des horizons politiques différents. Donc c'est un temps de rencontre, de travail pour fixer une feuille de route pour enfin se mettre dans l'action après une campagne électorale qui a été très très longue.
Seulement 27 ont déjà été députés, ça fait plus de 280 nouveaux qui ont tout à découvrir. François-Michel Lambert sera là pour les épauler et voilà ce qu'il leur conseille.
De ne pas s'affoler, de prendre leur temps et de s'appuyer sur ceux qui ont de l'expérience, d'apprendre comme des étudiants, mais au sens avec la passion et l'envie de servir.
Là, on ne s'adresse pas à des étudiants.
C'était une expression, permettez-moi. Ce ne sont pas des étudiants, mais il y a quand même besoin d'apprendre comment ceci fonctionne.
C'est Édouard Philippe qui a ouvert le bal. Le Premier ministre vient leur présenter sa feuille de route et n'ont pas donné des consignes, d'après Didier Legac, député dans le Finistère.
Non, pas de consignes encore. On est là pour se mettre, pour s'organiser. S'organiser. Le groupe, c'est le lieu où on discute, où on échange. Parfois même où on s'engueule, c'est naturel.
La journée s'annonce chargée, elle ne terminera pas avant 19h et ça recommence demain toute la matinée.
Et ce matin, comme prévu, l'ex-ministre Richard Ferrand a été élu président du groupe, élu à main levée, moins 2 abstentions.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamps.
Elle avait été triomphalement élue il y a tout juste un an à Rome. Rien ne va plus aujourd'hui pour la maire de Rome, Virginia Raggi, qui faisait la fierté du mouvement 5 étoiles, le mouvement populiste de Beppe Grillo. Sa jeune représentante, avocate de 38 ans, devait améliorer la vie quotidienne des Romains. Et c'est le contraire qui s'est produit à tous les niveaux. C'est le droit de suite de ce journal, signé à Rome, Mathilde Imberti.
67% des Romains ont voté pour Virginia Raggi. Ils sont un an plus tard autant à se déclarer insatisfaits. La ville se dégrade, commandent ces deux femmes, l'une active, l'autre retraitée.
Moi j'habite dans l'est de Rome, c'est sale, plein d'ordures, rien n'a changé. Pour les transports non plus, aucune amélioration.
Ils promettent toujours, mais après plus rien. Rome est dans un état lamentable, pire que Naples.
Virginia Raggi se présentait avec un plan zéro déchet et un objectif de trier les trois quarts des ordures. Aujourd'hui, bien loin d'être atteint. Le réseau de transport souffre de vétusté, on compte 300 pannes par jour dans les bus. Il faut du temps, réplique l'élu.
Nous changeons petit à petit le système. Nous avons lancé des appels d'offres pour toute une série de projets. Nous ne lâchons rien. Et si je devais m'attribuer une note, 7,5 sur 10.
L'administration est paralysée, relèvent les observateurs. Virginia Raggi a mis des mois à former son équipe et n'a toujours pas de chef de cabinet. Le politologue Giovanni Orsina, Université Louis.
Et jusqu'à janvier, la Raggi a eu beaucoup de problèmes pour bâtir son équipe. Et il y avait des problèmes judiciaires. Et il n'y avait pas suffisamment de personnes d'expérience qui voulaient travailler pour cette administration. Et la communication de ces cauchemars était très mauvaise pour le mouvement 5 étoiles. Après janvier, ils ont dit à la Raggi, tu fais rien, tu dis rien, nous cherchons à te faire oublier par les Italiens.
À ces difficultés s'ajoutent les déboires judiciaires. Virginia Raggi est mise en examen pour abus de pouvoir et risque un procès. À ce stade, le mouvement 5 étoiles n'oblige pas l'élu à démissionner, mais une condamnation changerait tout. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
En ligne avec nous, Jean-Pierre Darnis, directeur de recherche à l'Institut des Affaires Internationales de Rome, maître de conférence à l'Université de Nice, Sophia Antipolis. Bonjour.
Bonjour.
Alors, au deuxième tour des municipales partielles, demain, aucun candidat du mouvement 5 étoiles ne s'est qualifié. La faute à Virginia Raggi, dit-on, dont la gestion à la mairie de Rome, depuis un an, serait donc une catastrophe. C'est de l'incompétence? C'est quoi? Il y a eu un sabotage dans l'administration? Comment expliquer ça?
Il y a un petit peu de tout. Un manque de compétences, une jeunesse et une non-préparation sur ces dossiers. Après ça, il y a une extrême complexité de la gestion des choses à Rome, et il y avait un passif, le passif de deux municipalités qui avaient été très mauvaises, la municipalité de gauche et la municipalité de droite précédente avaient créé un cycle assez négatif où ils avaient perdu le contrôle sur ces dimensions essentielles qui sont celles de la voirie et celles des transports municipaux. Et donc l'arrivée de Virginia Raggi, qui était en plus assez peu préparé, avec aucune expérience de ce type, a prolongé ce cycle négatif et n'a pas amélioré les choses.
Et surtout qu'elle incarnait l'honnêteté et la transparence. Or, ses conseillers ont démissionné, dont un pour corruption.
Oui, elle était absolument incapable de choisir ses conseillers. Moi, je ne veux pas lui jeter la pierre de l'extérieur, mais là aussi, c'était peut-être plus je pense pas que ce soit une véritable malhonnêteté de sa part, mais c'était une incapacité à discerner dans des contextes un petit peu difficiles, dans des zones très grises, qui sont celles de la municipalité romaine, le bon grain de livrer. C'est assez difficile ici.
Alors, est-ce qu'on peut en conclure que le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, mouvement dit populiste, qui voulait faire de la politique autrement, n'aura été qu'un feu de paille? Que c'est fini?
C'est bien trop tôt pour avoir une conclusion du genre, parce que dans les enquêtes d'opinion, le mouvement de Beppe Grillo reste très fort. Il reste le symbole de ce qu'en France on appelle de façon assez rapide le dégagisme, et qui ici a été tonitrué par Beppe Grillo avec des termes beaucoup plus crus. Mais on a un marqueur politique assez fort de ce côté-là. La tendance européenne, l'accélération française, le Brexit devraient ici aussi diminuer l'importance des populistes dans le futur, mais on ne peut pas penser ici comme ailleurs qu'ils seraient réduits à néant.
Alors c'est peut-être plus le procès des candidats de la société civile finalement que tout cela induit, ce qui nous parle particulièrement aujourd'hui en France.
Là non plus, c'est à prendre aussi avec un certain discernement, parce que en Italie par exemple, où la caste entre guillemets des hauts fonctionnaires est beaucoup plus réduite, on a l'habitude d'experts techniques de la société civile. Et il y a eu ces fameux gouvernements techniques dont certains ont été tout à fait positifs, avec des universitaires, avec des responsables d'entreprise. Donc l'Italie est plus fluide sur ces catégories qui accèdent au pouvoir, et on ne peut pas en tirer là aussi des conclusions aussi nettes qu'une condamnation. Les 5 étoiles sont un mouvement qui représente une idéologie ou des idéologies assez particulières, parfois contradictoires. La mairie de Turin n'a pas les problèmes dans sa gestion des 5 étoiles que par exemple la mairie de Rome. Donc voilà, il y a une situation qui est quand même différenciée.
Voilà, c'est vrai qu'en précisant, on peut préciser qu'à Turin, une autre élue du mouvement 5 étoiles, Chiara Appendino, réussit beaucoup mieux que sa collègue romaine. Merci Jean-Pierre Darnis, directeur de recherche à l'Institut des Affaires Internationales de Rome. À Londres, des milliers de personnes évacuées hier soir de 5 tours du quartier de Camden, des tours jugées dangereuses en cas d'incendie. C'est la conséquence du sinistre de la semaine dernière, l'embrasement rapide de la Grenfell Tower qui avait fait 79 morts et disparus. Dans les immeubles évacués par les pompiers, c'est le revêtement extérieur qui semble poser problème, des plaques d'isolation qui présenteraient un risque en cas de feu. Au total, 27 tours de Londres ne seraient pas conformes aux normes anti-incendie. Des chars, des sonos, des danseurs et beaucoup, beaucoup de monde à Paris tout à l'heure pour la marche des fiertés. On attend des centaines de milliers de personnes pour le défilé de Concorde à République. Défilé festif avant tout, mais aussi revendicatif. Géraldine Allot, la PMA pour tous, c'est le mot d'ordre de cette édition 2017.
Il y a un seul mot d'ordre cette année, et il est très politique, c'est l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes et pas seulement pour les femmes hétérosexuelles et en couple, comme c'est le cas aujourd'hui. Emmanuel Macron s'y était déclaré favorable pendant sa campagne. La PMA pour toutes, ce serait la fin des discriminations, la fin de l'hypocrisie aussi, disent les associations, car aujourd'hui de nombreuses lesbiennes vont faire une PMA à l'étranger. Clémence Zamora Cruz est la porte-parole de l'inter-LGBT.
Des femmes qui prennent des risques sur leur santé pour faire une PMA. Une fois qu'on va à l'étranger, qu'on revient en France, il peut y avoir des ruptures de suite des soins. Et donc du coup, oui, on est dans cette hypocrisie où les femmes doivent prendre les Thalys pour aller soit en Espagne, soit en Belgique, pour accéder à une PMA.
L'autre préoccupation du monde LGBT, c'est la hausse des actes homophobes. Ils ont augmenté de 20% l'an dernier. Nicolas Simon de SOS Homophobie.
Finalement, aujourd'hui, en 2017, on a encore une peur de beaucoup de personnes LGBT de pouvoir s'afficher. C'est pour ça qu'une journée comme celle-ci, elle est vraiment importante. C'est de pouvoir défiler, de dire nous existons. C'est pas qu'on est meilleur ou moins bien. On a le droit d'être là et d'avoir les mêmes droits que les autres citoyennes et les autres citoyens. Et
des dizaines de chars colorés et festifs ont pris position le long de la rue Royale en amont de la place de la Concorde, avec déjà une très forte et très visible présence policière. État d'urgence oblige.
Géraldine Allot avec Jean-Marie Porcher, la maire de Paris, Anne Hidalgo, voudrait faire de Paris la capitale mondiale LGBTique. Elle promet d'ériger un monument aux victimes de l'homophobie, tout l'inverse du gouvernorat d'Istanbul qui annonce à l'instant l'interdiction de la marche des fiertés prévue demain dans la capitale turque, motif invoqué des questions de sécurité. En sport, les championnats d'Europe d'athlétisme par équipe à Villeneuve-d'Ascq, dernière revue d'effectifs avant les mondiaux à suivre côté français cet après-midi, Mekissi sur 1500 mètres, mais aussi Robert Michon au disque et Alexandra Tavernier au marteau, médaille de bronze aux mondiaux de 2015, elle avait raté les JO l'année dernière et elle fait tout pour revenir au premier plan, Franck Ballanger.
En 2015, un peu à la surprise générale, alors qu'elle n'avait que 21 ans, Alexandra Tavernier avait remporté la médaille de bronze au championnat du monde de Pékin. Et puisqu'il n'y avait eu que deux podiums tricolores en Chine, au pays, on parlait beaucoup de ces deux médaillés, le perchiste Renaud Lavillény et la demoiselle d'Annecy, Alexandra Tavernier.
J'étais jeune, j'étais tarée dans ma tête. Je pensais pas qu'il y avait autant de pression après une médaille.
Alexandra Tavernier n'a donc pas forcément bien supporté sa nouvelle notoriété. D'autant moins qu'après ses brillants championnats du monde, elle a dû quitter Paris et trouver un nouveau coach. Début 2016, Alexandra part donc préparer les Jeux de Rio à Lannion, en Bretagne, sous les ordres de Gilles Dupré.
J'étais perdue, arrivée dans un lieu où je connaissais personne et je voyais que la tête de Gilles tous les jours. C'est compliqué à la fin. Peut-être une petite phase de dépression.
À Rio, aux Jeux Olympiques, ce mal-être se transforme en naufrage. Avec un G à 65 mètres 18, à pratiquement 10 mètres de son record personnel, les critiques sont acerbes, sur les réseaux sociaux notamment.
Ça m'a fait tellement de mal que j'ai eu du mal à couper court, quoi. J'ai pris 15 kilos. Je suis passée de 85 à 100.
Avec l'aide d'une diététicienne et d'une psychologue, Alexandra Tavernier a perdu quelques kilos. Surtout, elle sourit de nouveau alors que les mondiaux de Londres approchent. En fait, il ne lui manque plus qu'une performance de haut niveau pour se retrouver complètement.
Et ce sera peut-être cet après-midi. À suivre également cet après-midi à 17h, le troisième et dernier test match des Bleus en Afrique du Sud. Une troisième défaite serait problématique pour le groupe et son sélectionneur Guy Noves. Et puis ce soir, les Françaises en demi-finale du championnat d'Europe de basket face aux Grecs qu'elles avaient dominé au premier tour. En toute logique, ça devrait passer, mais y a-t-il une logique en sport? Allez, un pionnier du rock qui sort un album posthume, ça n'arrive pas tous les jours. C'est votre proposition du week-end. Bonjour Mathieu Culeron.
Bonjour.
Chuck Berry, qui est mort en mars dernier à 90 ans, sort un nouveau disque et c'est évidemment un événement.
Oui, 38 ans après son dernier album, revoici l'auteur de Johnny B. Goode, un album intitulé Chuck. Tout simplement, l'énergie est toujours présente dans la voix et pourtant, il en aura fallu du temps pour sortir ce disque. Charles Berry Jr. est le fils de Chuck Berry. Il nous raconte la fabrication de ce dernier album.
Cet album représente 10 ans de travail acharné. En 1989, son studio a brûlé. Tous ses morceaux et son matériel ont disparu. Tout est parti en cendres. En 1991, il reconstruit son studio et recommence à faire de la musique. Et donc évidemment, cet album a pris du temps. En 1988, mon père avait 62 ans de vie derrière lui. Son jeu de guitare était si unique. C'était presque hypnotisant. Par exemple, quand tu écoutes Johnny B. Goode, ça t'attrape instantanément et tu fais « Waouh, écoute ça !»
Woman, un extrait du dernier disque album de Chuck Berry. L'autre événement musical, Mathieu, c'est le festival Solidaise à l'Hippodrome de Longchamp.
Oui, l'occasion de faire passer un message de prévention pour lutter contre le virus du sida. 80 concerts jusqu'à dimanche, avec ce soir entre autres les concerts de The Stripes, Ibrahim Malouf et Kerry James. Solidaise qui, cette année, mettra en avant l'urgence de la prévention dans les pays où les homosexuels sont persécutés.
Et puis on reste dans l'univers de la musique avec des souvenirs d'Yves Montand et de Simone Signoret. C'est aux enchères lundi à Drouot.
Oui, des meubles, des objets d'art, des vêtements, le piano sur lequel Yves Montand composait ses chansons et puis, plus insolite, les droits du film La Menace d'Alain Corneau qui pourrait intéresser les collectionneurs cinéphiles. Prix estimé de la vente entre 150 et 200 000 euros. Au total, 317 lots sont visibles aujourd'hui, toute la journée.
Mathieu Culeron et un petit dernier choc pour la route. Bon après-midi.
Merci à vous Yves Decaen, nous vous retrouvons ce soir pour le 19h.